Vous écoutez France Culture.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, un chef-d'œuvre d'Alberto Giacometti, intitulé « Boule suspendue », qui date de 1931 et est conservé au centre Georges Pompidou. Remarqué à l'époque par les surréalistes et particulièrement Salvador Dali, notre regardeur. J'ai avec moi l'artiste Arnaud Labelle-Rojou, qui participe d'ailleurs à l'exposition fantastique « Le surréalisme et l'objet ». Arnaud Labelle-Rojou est artiste, mais également essayiste, écrivain, performeur, poète. Et je me réjouis de bavarder avec lui. Nous avons également Didier Ottinger, qui est le commissaire de cette exposition, historien d'art, conservateur, directeur adjoint du Musée national d'art moderne et commissaire donc de l'exposition « Le surréalisme et l'objet » qui aura lieu jusqu'au 3 mars 2014. Près de moi, une grande spécialiste de l'œuvre de Giacometti, Véronique Wissinger, directrice de la Fondation Alberto et Annette Giacometti, qui prépare une petite monographie au Centre Pompidou sur Alberto Giacometti.
I think images are worth repeating, images repeated from a painting. Images taken from a painting, from a photo worth re-seeing.
Une boule de bois marquée d'un creux féminin est suspendue par une fine corde à violon au-dessus d'un croissant dont une arête effleure la cavité. Le spectateur se trouve instinctivement forcé de faire glisser la boule sur l'arête, ce que la longueur de la corde ne lui permet de réaliser que partiellement.
C'est la sculpture où je ressens comme une violence contenue qui me touche le plus.
Quand il réalise cette boule suspendue, Giacometti est depuis 2 ans, depuis 1928, lié à Masson, Bataille, Léris, Artaud et Queneau. Et donc proche de la sublime revue Document, cette revue d'art, d'ethnologie, de littérature, de doctrine et de sacrifice. Cette relation a été permise par André Masson, qui fut impressionné par l'exposition des têtes plates que Giacometti fit à la galerie Jeanne Bucher. C'est à la suite de celle-ci que le peintre le présenta à ses amis. Pendant ce temps-là, 6 ans après le premier manifeste d'André Breton, les surréalistes sont empêtrés dans un débat idéologique sur ce que doit être un objet poétique. Un objet qui soit compatible avec les hypothèses du matérialisme historique, du communisme donc. Un objet qui ne serait pas lié à l'ego de l'artiste, qui ne le distinguerait pas des autres, qui pourrait être fait par n'importe qui et qui, sans intervention nécessaire du métier, permettrait à chacun d'exprimer ses fantasmes ou ses rêves. L'écrivain André Thirion et Salvador Dali sont alors chargés par l'organisation surréaliste de faire des propositions pour parvenir à définir ce que sera cet introuvable objet politiquement compatible. Les voici embarrassés lorsque soudain apparut, comme une révélation, l'œuvre inquiète et insatisfaite de Giacometti, la boule suspendue, qui fut présentée en 1930 à la galerie Pierre Loeb et qui deviendra, ainsi que l'écrit Salvador Dali, le prototype des objets à fonctionnement symbolique, inaugurant ainsi l'histoire de l'objet surréaliste comme nous venons de l'entendre. Décrivons-la encore une fois. Dans une cage, poncée jusqu'au fini impersonnel d'un meuble, une boule de bilboquet en bois est suspendue par une ficelle à une barre horizontale. Cette boule est fendue dans sa partie basse et surmonte une forme en croissant posée sur un plateau. La boule, si elle était agitée par une main audacieuse, une main rouge peut-être, oscillerait en un mouvement pendulaire au-dessus du croissant basculant. Dans une relation nécessaire et frustrante, la hauteur de la suspension interdisant à ces objets désirants de se toucher. Selon Giacometti, cette œuvre se serait présentée tout achevée à son esprit et elle fut exécutée sans son intervention directe, comme la manifestation immédiate d'une vision, comme la projection impeccable de son inconscient. Acquise en 1933 par André Breton, elle demeurera comme un mystère actif et stimulant, au cœur, au point focal de ce lieu manifeste, cette bombe mentale du XXe siècle que fut son bureau. À propos de cette boule, le regretté Maurice Nadeau nous dit « Tous ceux qui ont vu fonctionner cette œuvre ont ressenti une émotion violente et indéfinissable en rapport, bien entendu, avec des désirs sexuels inconscients. Cette émotion ne ressemblait pourtant rien à une satisfaction, mais bien plutôt à un agacement, semblable à l'impression d'un manque, au sentiment de quelque chose qui ne peut s'accomplir, mais qui est toujours sur le point d'y arriver. Arnaud Labelle-Rojou, je vous ai présenté il y a quelques instants. Vous êtes une sorte d'artiste inclassable. Vous êtes professeur à la Villa Arson. Vous organisez une exposition qui va ouvrir le 23 novembre prochain intitulée « Décors compétents », étrange titre, n'est-ce pas, qui rassemble un ensemble d'artistes sportifs burlesques. Le burlesque a une grande place dans votre travail, n'est-ce pas? Dites-moi, il y a, pour ceux qui ont vu fonctionner cette œuvre, quelque chose de dérangeant, car il y a, dit par exemple Nadeau, la conscience d'un échec possible, ou la conscience de l'imminence d'un échec. La notion d'échec vous a paru importante dans votre œuvre, et souvent vous aimez les échecs pitoyables de certains artistes. Voilà, et vous les mimez même parfois dans votre travail.
Oui, tout à fait. Cela étant, ce n'est pas tellement ce que je vois, moi, dans la pièce de Giacometti. C'est pas tellement l'échec. Ce qui m'intéresse, quand je la regarde de premier abord, immédiatement, en fait, c'est le dispositif. C'est le dispositif, c'est-à-dire cette boule suspendue, mais aussi la cage qui l'en sert. Et pour moi, c'est une scène. Et c'est en ça que cette pièce m'intéresse particulièrement par rapport à la question de l'objet et par rapport à la question de mes propres objets aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, j'avais fait avec mon ami Xavier Bousséron, nous avions fait une installation qui s'appelait « Les choses à leur place » et qui consistait à mettre sur une scène des œuvres d'art qui n'étaient pas forcément de nous, mais rarement de nous d'ailleurs. Et c'était la force, la puissance évocatrice de ces objets qui nous intéressait. Pas forcément sur un plan, je dirais, symbolique au sens de ce qu'on...
Fétichiste, sexuel ou autre.
Voilà, ouais. Mais simplement la seule présence comparable presque à celle d'un acteur qui porte en lui véritablement une puissance, je dirais, évocatrice, donc y compris narrative. Alors, dans le cadre de cette pièce de Giacometti, ce qui me frappe, c'est cette, bien sûr, ça a été dit 100 fois, mais cette suspension, cet enfermement dans le vide. Parce que même si, en effet, il y a cette structure qui vient couper la sphère, ce qui me frappe, c'est ce vide.
C'est une scène de théâtre.
Une scène de théâtre. Et je me suis souvenu, et là, sans doute qu'on me contredira ou pas, au contraire, on dira que c'est tout à fait la vérité. Moi, on pense vraiment à Beckett. Moi, je pense à Beckett quand je vois une pièce comme ça. Je pense à Beckett je crois savoir que Giacometti et Beckett se sont connus. Et je crois savoir même que Beckett avait raconté à Giacometti, mais alors peut-être que c'est un de mes fantasmes, j'ai lu ça un jour, je ne sais plus où, je ne sais jamais où je prends mes sources, peut-être que je les invente en réalité.
Ça va très bien.
J'ai cru lire quelque part un jour que Beckett avait expliqué à Giacometti qu'une de ses sources, c'était un tableau de Gaspard David Friedrich qui s'appelle « Un homme et une femme devant la lune ». Et voilà, d'expliquer que c'est une des sources dans l'attendant Godot, c'est-à-dire voilà, le côté statique, attente, lévitation.
Personnage presque. Tourné de dos,
personnage
dans le tableau
de Frédéric, voilà. Voilà. Et donc, voilà ce que m'évoque cette boule, donc pas tellement la question de l'échec, mais plutôt la question de l'attente.
Didier Ottinger, vous êtes donc le commissaire de cette exposition. Vous avez invité d'ailleurs dans cette exposition Arnaud Labelle-Rojou à faire une très belle installation. Qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse de voir la boule suspendue de Giacometti comme une scène ?
Je crois que c'est tout à fait juste. Si Arnaud n'avait pas introduit cette dimension théâtrale dans l'œuvre, j'en aurais parlé, je crois. Et là, je me référais à une petite phrase de Giacometti prononcée quelque part à propos de cette boule, où il nous dit « Je pense bien que toute l'activité humaine n'est qu'une masse de mouvements, de réactions mécaniques, automatiques, aussi aveugles et aussi peu aveugles que le mouvement, que la réaction d'une feuille, d'un atome de pierre. » Et je crois qu'il y a là, effectivement, dans cette définition par Giacometti, toute la dimension pathétique, tragique de cette boule, qui est une sorte de petit théâtre hurlant du solipsisme, c'est-à-dire de l'incapacité, qui est sans doute celle de Giacometti, Véronique pourra nous en dire plus sur ce point, à se comporter, à avoir des relations normales avec des individus en particulier d'un autre sexe. On sait à quel point Giacometti est quelqu'un qui, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il s'est trouvé en telle sympathie avec Georges Bataille, avait de l'amour une idée extrêmement violente, sadique, problématique. Et je crois que toute cette difficulté et toute cette difficulté de communication, et en particulier sexuelle, s'exprime dans ce petit théâtre enfermé à l'intérieur de la structure de la cage de Giacometti.
Véronique Wessinger, donc effectivement, cette boule suspendue a souvent été lue avec, en analogie avec une scène sexuelle.
C'en est une. C'en est une.
C'en est une, absolument. Et Giacometti semble avoir fait de cette question et de cet événement dans sa vie, cette question dans sa vie, quelque chose de complexe, effectivement.
Mais je pense qu'il ne faut pas voir cette œuvre comme une anecdote biographique, mais c'est clair que l'idée du théâtre, elle est extrêmement présente. Elle est très présente chez lui à ce moment où il va créer plusieurs cages. Et il va être tenté par le théâtre aussi, puisqu'il va effectivement avoir une proposition pour faire un décor qu'il va imaginer, mais qui n'aura pas de suite pour les ballets russes. Et donc, il va décider de ne pas aller jusque-là, c'est-à-dire jusqu'au théâtre. Mais il va garder cette idée du théâtre. Et c'est vrai que ce thème de la cage, il va évidemment le poursuivre jusqu'après la guerre.
C'est-à-dire qu'il
et
va
en
continuer...
mettant beaucoup plus encore en évidence les thèmes dont
parlait Arnaud. C'est-à-dire qu'il va continuer à utiliser les cages en question pour présenter ces grandes femmes, ces grandes silhouettes très tard, jusqu'à la fin.
Il va mettre en scène, notamment dans la cage de 1950, une femme debout et un buste. Et il est clair que quand on voit le buste qui sort du sol, on pense à Beckett. Mmh. Mais avant Beckett, puisqu'il le connaissait, il l'a connu un peu après.
Est-ce qu'ils se sont connus, comme je le crois?
Ah, mais bien sûr. Ah, voilà, oui. Mais d'ailleurs, Giacometti a fait un des rares décors réellement existants pour Beckett, avec... l'arbre en attendant Godot.
Arnaud Labelle-Rejoux, donc votre intuition est juste, vous le sentez. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une partie de la fascination qu'on reçoit de cette œuvre, La boule suspendue de Giacometti, vient de ce que cette scène que vous décriviez tout à l'heure, ces éléments qui pourraient être agis sur un plateau, qui sont devant nous comme sur une scène de théâtre, effectivement, sont en même temps séparés de l'idée de fiction par la possibilité suggérée de les toucher, de les manipuler, de les faire se balancer. Il y a une sorte de tension entre des éléments réels qui appartiendraient à notre monde et des éléments fictionnels qui appartiendraient à celui du théâtre.
Oui, oui, je pense en effet. Mais précisément, il y a aussi bien sûr, c'est une structure, les arêtes, et puis c'est une œuvre d'art, donc personne ne va y toucher. Mais il y a aussi quelque part une sorte de distance qui s'établit avec le spectateur, avec le regardeur. Et moi, ce qui me frappe dans l'installation, c'est, je reprends cette idée un peu évidente de la suspension avec ce fil, c'est que effectivement, ça vient. Ça peut être aussi une apparition. C'est-à-dire que au théâtre, ils sont que j'ai un petit peu travaillé dans le théâtre, les cintres, c'est quelque chose d'important, puisqu'on on descend des cintres et on peut faire des apparitions comme ça. Alors, il peut y avoir de la scène, bien sûr, des apparitions, mais aussi cette idée de la descente, comme ça, oui. Et de la suspension ensuite, qui fait que il y a quelque part une sorte d'arrêt sur image dans les espace que je trouve très fascinant dans cette pièce et qui me paraît pas forcément celle de toucher en effet la boule, mais au contraire d'être arrêté. Je pense qu'il y a quelque chose de... Peut-être qu'en effet, il y a quelque chose d'assez fort et évidemment sexuel sur le plan de la symbolique. Mais je dirais que sur le plan de l'objet, il y a quelque chose qui arrête plutôt, moi je dirais, qui empêche de toucher. Il y a presque un voilà, on bute, comme si les quatre faces du cube nous empêchaient d'y accéder.
Didier Ottinger, vous parlez là, vous entendez comme moi Arnaud parler de l'apparition d'une figure suspendue au cintre comme une machinerie, comme par une machinerie de théâtre. Et vous, tout à l'heure, vous évoquiez la question du mouvement. Il y a un moment où Giacometti évoque l'impossibilité de concevoir une sculpture sans mouvement. Quelle est sa position par rapport à
Alors,
ça ?
Alors, la question du mouvement, évidemment, est fondamentale dans cette histoire de la boule suspendue, mais c'est, je crois, avant tout sur la question de l'objet qu'il faut peut-être s'arrêter un moment, parce que cette sculpture marque l'entrée également Giacometti dans le groupe du surréalisme officiel. On l'a dit, jusqu'à présent, il fréquentait plutôt la dissidence, c'est-à-dire les intellectuels en marge du surréalisme qui s'étaient regroupés autour de la revue Documents de Georges Bataille. Et là, avec cette œuvre, il le dit d'ailleurs, Giacometti, il la conçoit en pensant aux surréalistes et en espérant qu'ils vont la comprendre et qu'ils vont être à même de l'analyser. Et la question d'objet est fondamentale parce que là, Giacometti décide de rompre avec son savoir-faire de sculpteur. C'est la première fois qu'il le fait. La deuxième fois, il le fera en 1934, j'espère qu'on y reviendra, lorsque Breton en fera l'acteur du dépassement de cette première phase de l'objet surréaliste, qui est l'objet à fonctionnement symbolique. Toujours est-il qu'il dépasse cette question de l'objet, il dépasse cette question de la sculpture pour produire un objet, sous l'effet déjà d'abord des théories et des valeurs qui sont celles de la revue Documents. La revue Documents, rappelons-le, est une revue qui a pour finalité, d'une certaine façon théorique, de s'opposer à la dignité et à l'idée même de l'œuvre d'art. On va privilégier le document, ou alors, lorsqu'on va considérer des œuvres, on va les considérer de façon documentaire, c'est-à-dire qu'on va les éclairer non pas par l'histoire des formes, mais peut-être par l'histoire ethnographique, peut-être par l'histoire culturelle, philosophique et autres. Donc, Giacometti est déjà enclin à sortir de la sculpture pour produire autre chose. Et puis, cet objet va avoir un sens tout particulier du côté du camp surréaliste, parce que c'est le moment, vous l'avez rappelé en introduction, où le surréalisme lui-même s'engage du côté de l'action militante et politique et est amené, là aussi, à reconsidérer l'idée d'œuvre d'art, et cette fois dans une perspective politique. Et c'est le moment où le surréalisme va se réconcilier avec Dada, c'est-à-dire avec un iconoclasme radical, mais cette fois placé dans un éclairage qui est celui de la pensée politique marxiste. Et là, précisément, Giacometti apporte exactement la réponse attendue.
Dans Véronique Wissinger, le passage de Giacometti entre ces deux groupes que vient de décrire Didier Ottinger, c'est aussi conscient que nous l'avons entendu ?
Mais en fait, il est clair qu'il avait envie d'entrer dans le groupe de Breton et qu'en 1931, quand Breton enfin l'accepte, pour lui c'est très important. Mais en fait, il ne choisira jamais. Et c'est bien pourquoi qu'au moment de la crise Aragon en 1932, il décidera de ne pas choisir et il restera toujours un pied entre les deux.
Il sera toujours lié à Bataille malgré quelques crises jusqu'à la fin de
sa
vie.
Ah oui, absolument.
Il l'accompagnera même dans les dernières années.
Ah oui, bien sûr, y compris financièrement, absolument. Donc c'est clair qu'il n'y a pas, il y a pas de choix. Lorsque Giacometti crée cette œuvre et décide, comme l'a dit Didier, de confier le fer à un ébéniste, c'est extrêmement important sur le plan du statut de l'objet.
C'est crucial. C'est une question politique. Alors peut-être
c'est
avant
absolument
que
politique.
Nous rentrions sur cette question, j'aimerais bien que nous écoutions Salvador Dali, qui évidemment est très impliqué dans cette invention de l'objet surréaliste, qui nous parle dans le surréalisme au service de la Révolution, à propos justement de ce que sont les objets surréalistes qu'il décrit en plusieurs catégories, les objets à fonctionnement symbolique, les objets transsubstantiés, les objets à projeter, les objets enveloppés, les objets machines, les objets moulages.
Objets à fonctionnement symbolique. Ces objets, qui se prêtent à un minimum de fonctionnement mécanique, sont basés sur les fantasmes et représentations susceptibles d'être provoqués par la réalisation d'actes inconscients. Actes de la réalisation desquels on ne s'explique point le plaisir tiré, ou dont rendent compte des théories erronées élaborées par la censure et le refoulement. Dans tous les cas analysés, ces actes correspondent à des fantaisies et désirs érotiques nettement caractérisés. L'incarnation de ces désirs, leur manière de s'objectiver par substitution et métaphore, leur réalisation symbolique, constitue le processus type de la perversion sexuelle, lequel ressemble en tout point au processus du fait poétique. Les objets à fonctionnement symbolique furent envisagés à la suite de l'objet mobile et muet, la boule suspendue de Giacometti, objet qui posait et réunissait déjà tous les principes essentiels de notre définition, mais s'en tenait encore aux moyens propres à la sculpture. Les objets à fonctionnement symbolique ne laissent nulle chance aux préoccupations formelles. Ils ne dépendent que de l'imagination amoureuse de chacun et sont extra-plastiques. Catalogue général des objets surréalistes. Dans le surréalisme au service de la Révolution, Salvador Dali, 1931.
The snowflakes were so beautiful and real looking, and I really wanted to hold them.
Arnaud Labelle-Rejou, on a entendu cette description de Dali à ce moment crucial qui est l'invention de l'objet surréaliste. Est-ce que pour un artiste comme vous, aujourd'hui, l'objet à fonctionnement symbolique a une fonction ? Est-ce que c'est un stratagème qui continue à intéresser l'artiste que vous êtes ?
C'est un petit peu compliqué de l'énoncer parce que si on connaît mon travail, on peut comprendre pourquoi il y a quelques entrées qui permettent de parler du symbole, du symbolisme. Mais en même temps, la chose est un peu brouillée chez moi, enfin volontairement brouillée en tout cas. C'est-à-dire que j'utilise beaucoup d'objets, en effet, que je détourne. Mais j'appartiens effectivement à une génération qui est passée moins par le surréalisme d'une certaine manière que par d'autres familles artistiques. Mais il se trouve qu'on revient, on peut revenir à la question du surréalisme et de l'objet symbolique à travers des choses qui me paraissent très, très contemporaines, à savoir la question du refoulé dans l'art. Et dès lors, de voir comment, en effet, sur un plan ou pseudo-savant ou au contraire de pacotille, de pensée de pacotille, on peut retrouver toutes les questions liées au rêve, liées à l'inconscient, liées à Freud, etc. Donc retrouver forcément les formes symboliques, les objets symboliques, etc. Donc dans mon travail, s'il s'agit de parler un tout petit peu de mon travail, dans mon travail, il y a ce registre en effet qu'on peut voir, mais avec un jeu par rapport à ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, il est clair que si on voit une boule avec, je reprends évidemment forcément la pièce dont on parle, l'objet symbolique,
la boule suspendue de Giacometti
1930, avec dessous cette forme qui la coupe, on peut évidemment avoir les analyses qu'on connaît de Bataille et d'autres sur la lecture absolument littérale presque du symbole. Mais on peut aussi détourner ce symbole et on peut aussi rejouer la forme de ce symbolique autrement, mettre une banane et je ne l'ai pas fait hein, ça, mettre une banane et au-dessus autre
mais
chose.
Mais qui est la même métaphore.
Mais qui est la même métaphore, mais, ouais. Mais le rejouer du côté parodique par exemple. Moi je serais plutôt...
Parce que vous êtes un artiste parodique en fait.
Oui, voilà. Donc moi, étant plutôt dans ce registre-là, il est clair que je tirerais ce symbolique du côté d'une sorte de parodisation du symbole.
Didier Ottinger, moi je connais bien le travail d'Arnaud Labelle-Rejou depuis des années. Je connais à la fois l'humour qu'il construit, mais également les œuvres parfois composites, très spectaculaires, souvent insolente, qu'il invente. Et je ne m'attendais pas à ce que vous l'invitiez, non pas qu'il ne soit pas un merveilleux artiste, mais parce que le sujet très précis que vous traitez ne me paraissait pas avoir une relation directe. Est-ce que vous pouvez...
Alors, il y a peut-être un aspect de l'exposition qui vous a échappé. L'exposition est structurée autour d'une rue dans laquelle sont regroupés un certain nombre d'artistes contemporains. Chacun de ces artistes a été sollicité pour proposer une réponse qui était un tout petit peu cadré et orienté. Mon idée était d'évoquer un passage parisien, évidemment, lié à l'imaginaire du surréalisme, au roman d'Aragon, Le paysan de Paris. On sait quel rôle jouent les passages dans l'imaginaire surréaliste. Et mon idée était d'abord d'évoquer ce passage en commandant à des artistes des formes de vitrines. Donc, je suis entré en contact avec un certain nombre d'artistes, Mona Hatoum, pour lui demander peut-être de faire une bijouterie, Philippe Maillot, peut-être pour faire un rayon de charcuterie. Et lorsque j'ai contacté Arnaud Labelle-Rejou, je lui ai dit « Pourrais-tu me faire un magasin de farce et attrape ?» Et là, je pense que vous rendez compte que je ne suis pas complètement à côté de l'œuvre et de l'ironie qui est celle d'Arnaud Labelle-Rejou. Et d'autre part,
Vous n'avez pas paraphrasé non plus l'objet surréaliste. Vous avez cherché à ce que les artistes soient sur leur propre territoire.
Bien sûr. Voilà. Mais cependant, pour avoir beaucoup discuté également de cette exposition avec Arnaud, je souhaitais qu'il y ait une prise de distance par rapport à certaines idées un peu trop vite acceptées à propos du surréalisme. Toute cette pacotille, le surréalisme a été quand même un des mouvements les plus vilipendés au XXe siècle. Son retour en grâce est très récent. Pendant des décennies, il a été marginalisé, il a été considéré comme quasi-réactionnaire. C'est un terme qu'emploie Alfred Barre en 1936 dans la grande exposition l'exposition du MoMA. Et je voulais proposer une lecture un peu rafraîchissante, et peut-être montrer que le surréalisme avait lui-même un degré de réflexivité par rapport à ses enjeux théoriques ou métaphysiques, par rapport à l'ésotérisme, par rapport à l'engagement politique, par rapport à son iconoclasme, etc. Et Arnaud a bien voulu, parce que c'est dans sa nature, et je pense que ça l'amusait beaucoup, jouer avec les stéréotypes qui sont aujourd'hui accolés au surréalisme et marquer une distance ironique. Et je pense que ça apporte beaucoup de fraîcheur, y compris à l'exposition.
Arnaud Labelle-Rougeau, vous voulez réagir?
Oui, parce que je ne vais pas dire le contraire. Parce que,
vous pouvez.
Non, pas du tout, parce que je partage ça. Et puis l'idée de la farce et la trappe me gênait, je dois dire, au départ, mais pas ce qu'il y a derrière la farce et la trappe, justement. Parce qu'en effet, ce qui m'intéresse dans le surréalisme aussi, et je crois que c'est un des retours possibles des réflexions aujourd'hui sur le surréalisme, à travers des artistes comme Mike Kelly, des artistes comme Jim Shaw, des artistes américains, justement, c'est de voir le côté low culture du surréalisme aussi. C'est-à-dire que...
Il y a dans le surréalisme une passion aussi pour la pacotille, pour les petits miracles laïcs,
exactement,
pour le musical dans sa version la plus
exactement.
Simple.
Et c'est ce biais-là qui m'a intéressé. Voilà. Et c'est le musée Grévin, et c'est qui se trouve dans un passage, et c'est évidemment le cinéma de, si on peut élargir et pas rester dans la période surréaliste, parce qu'en fait c'était aussi le projet de Didier, de montrer qu'il y avait une postérité qui parlait aussi de l'époque contemporaine. Il se trouve que moi, je me suis amusé à mettre en parallèle peut-être le psychédélisme avec le surréalisme aussi. C'est-à-dire que tout ce côté présence du à la fois du mal, Charles Manson, présence de des tables tournantes.
La partie occultiste un petit peu. Oui. Qui est d'ailleurs très étrange parce qu'on sent, Véronique, vous distinguez, vous allez m'expliquer un petit peu cela d'ailleurs, on sent une tension terrible dans le surréalisme de cette époque entre une sorte de spiritualité plutôt, comment dirais-je, magique, ésotériste, etc. Et en même temps, la volonté d'y échapper complètement, une sorte de tension entre un idéal du merveilleux et un idéal matérialiste.
Oui, on peut dire ça. Et il faut peut-être aussi rappeler que les surréalistes réunissaient près de la place Pigalle. Hein, et donc, on n'est pas loin de Pigalle non plus et les sex shops. Et je pense que Didier aurait pu aussi demander ça. Et je pense qu'on ne peut pas vraiment continuer l'émission sans lire ce que disait René Crevel, qui est quand même la personne qui a permis que Giacometti rentre en contact avec André Breton. Et il dit « Au temps des sommeils, Breton écrivait « Les mots, enfin font l'amour. Aujourd'hui, s'il est affirmé que les objets bandent, ce n'est point caprice métaphorique. Et ils ne bandent pas dans le vide, ils se caressent, se sucent, s'enfilent, ils font l'amour, quoi. » Et ça, c'est ce que Crevel écrit dans Dali ou l'anti-obscurantisme à propos de la boule suspendue.
Quel beau texte. Ouais.
Mais donc, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il montre comment l'objet reste au niveau du désir sans aller jusqu'à l'assouvissement. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé de la plupart des objets de Giacometti.
Et de la violence de cet objet-là, au fond, de la violence.
Oui, la violence et le désir.
De la frustration.
Les deux.
Et sans doute lié à l'image fondatrice, qui est d'ailleurs, si vous voyez l'exposition, comme une sorte de petite clé pour l'ensemble de l'exposition, qui est la photo de Man Ray, qui représente la fameuse définition de la beauté donnée par Lautréamont, qui est celle de la rencontre du parapluie et de la machine à coudre. On y est, puisque rencontre a été interprétée en termes éminemment sexuels, évidemment.
Oui, mais là, on peut dire que c'est la rencontre d'un croissant et d'une boule sur une scène de théâtre.
Oui, donc on est tout à fait près des scènes de Pigalle aussi. Peut-être.
Oui, ça peut être aussi une scène occulte. Enfin, tout est possible. Et justement, c'est la force
mais
de cette
œuvre. Mais c'est une œuvre très ouverte. Alors, peut-être, Didier Ottinger, pouvez-vous nous expliquer cette sorte de crise de légitimité politique que le surréalisme a connue? Et pourquoi est-ce que cette œuvre-là leur est apparue comme la solution?
Oui, alors... L'exposition est évidemment placée, l'objet, c'est une exposition surréaliste dont l'ambition dépasse un peu, peut-être, j'espère, enfin de mon point de vue, l'anecdote qui est celle peut-être de l'histoire de l'évolution de l'objet au sein du surréalisme. L'idée de départ était de montrer un surréalisme tout à fait paradoxal, qui est le surréalisme qui se passionne pour la question du réalisme. Et là déjà, ça ressemble à une sérieuse aporie, puisque le surréalisme, lorsqu'il s'invente en 1924, se définit comme un mouvement, et c'est l'intitulé d'ailleurs qu'il se donne, comme étant radicalement opposé à toute forme de réalisme. Ceci va durer pendant 4 ans. trois ans en fait. En 1927, André Breton rejoint les rangs du PCF avec Aragon, avec Éluard, avec Unique. Donc vraiment les têtes pensantes du surréalisme se rallient au communisme. Et là, il se retrouve face à une vraie difficulté. Il se retrouve face à des idéologues qui leur disent « Mais c'est bien gentil les enfants, vous êtes aujourd'hui, vous réclamez du communisme, mais comment pouvez-vous le nier à ce point le réalisme et comment pouvez-vous faire fi du fondement à la fois théorique, philosophique, qui constitue notre doctrine, à savoir le matérialisme dialectique ?» Et là, Breton va engager une réflexion qui va durer jusqu'à la fin des années 30. Et la réponse qu'il va trouver, c'est évidemment celle de l'objet. Encore fallait-il qu'il y ait un objet qui réponde à ce programme. Je le rappelais dans un petit texte, il confie presque un séminaire de réflexion aux deux protagonistes qui tirent le surréalisme dans ses extrêmes à ce moment-là, c'est-à-dire Dali d'un côté et Thirion de l'autre.
En fait, le plus politique, c'est Thirion et le plus... Non.
C'est lui qui, après coup, va se positionner dans ses propres mémoires comme étant effectivement le militant le plus lucide, le plus cohérent. Mais la véritable tête politique à ce moment-là, c'est Naville. Naville, qui est le rédacteur en chef des deux premiers numéros de la Révolution surréaliste, qui est très proche du groupe Clarté, qui est un groupe de révolutionnaires communistes. C'est lui qui va très vite rencontrer Trotsky en Russie même, et c'est celui qui va attirer le surréalisme et qui va le mettre face à ses incohérences du point de vue idéologique. Et l'objet va être donc cette réponse. Et une fois
pardon
que...
de vous interrompre, Didier Ottinger, je voulais simplement savoir, peut-être que Véronique Wissinger, vous avez un avis là-dessus. Lorsque Giacometti a fait cet objet, qui est, le dit-il, une sorte de projection de son inconscient, une sorte de projection de son monde mental, c'est ce qu'il en dit, est-ce qu'il avait la conscience, lui, de répondre, lui qui voulait rejoindre les surréalistes, lui qui voulait être entendu par les surréalistes, est-ce qu'il avait la conscience d'avoir la solution de leurs problèmes ?
Déjà, il s'intéressait à la question de l'objet depuis bien avant. La réponse au problème, je ne pense pas. Et d'ailleurs, il y aura pas mal de tensions entre eux jusqu'à son expulsion finale. Il a été expulsé plusieurs fois, mais son expulsion finale en 1935, il faut quand même rappeler que l'une des raisons de cette expulsion, c'est qu'il refusait de mettre son art au service de la politique. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas faire de l'art qui soit un art ouvertement engagé. Néanmoins, pour lui, la position politique était à l'intérieur de l'art lui-même. Donc ça, c'est une chose qui est...
Je m'interroge sur ce point. Didier,
vous n'êtes pas tout à fait d'accord.
Alors là, c'est peut-être encore une fois assez hétérodoxe, mais je me suis demandé si au fond, la rupture de Giacometti avec le surréalisme, qui est marquée par son retour à la figure, à l'étude d'après le modèle, n'est pas au fond un acte de foi réaliste de sa part. Le seul qui est cohérent précisément par rapport aux injonctions qui émanent des instances communistes.
Oui, mais sa position par rapport au réalisme et au surréalisme est beaucoup plus compliquée que celle qu'on veut dire. On a toujours dit que c'était parce qu'il voulait revenir à la tête humaine et à l'observation du réel. Il n'a jamais perdu complètement le lien avec le réel. C'est clair que dans La boule suspendue, il conçoit un monde qui est un parallèle au monde réel et qu'il va continuer à travailler là-dessus bien après.
Lorsqu'il va s'évader du surréalisme, c'est pour revenir au réel,
mais
précisément.
Souvenez-vous qu'il continue à participer à la plupart des expositions surréalistes les plus importantes, que lorsque Breton revient, il le voit comme étant le sculpteur le mieux à même en 1946 de représenter ce qu'est l'art d'aujourd'hui, qu'en 1947, il fait la deuxième version de La boule suspendue et qu'il y reviendra encore en 1965 pour l'exposition à la Tate Gallery où il donne la troisième version de La boule suspendue.
Parce qu'il y a effectivement eu quatre versions, je crois, de La boule suspendue, nous y reviendrons tout à l'heure. Il vous arrive, Arnoul Abel-Rojou, de faire plusieurs versions d'une même œuvre ?
Non. Non, très peu, très peu. Non, j'aime bien passer à autre chose à chaque fois. Il se trouve que parfois je me cite, c'est encore autre chose. Mais non, j'ai repensé à quelque chose dans le genre parodique. Il se trouve que c'est vrai que on a parlé du langage à un moment donné. Il est clair que la question du langage aussi est très présente dans l'exposition à travers l'objet, et que dans ma propre installation, le langage aussi est très présent sous forme de jeux de mots ou pas d'ailleurs, de pseudo-slogans qui jouent ou qui rejouent autrement le rapport au militantisme, par exemple. Mais je repense à La boule suspendue. Il se trouve que j'ai un petit dessin qui est dans mon installation, où on voit une sorte de boule, en effet, qui ressemble vraiment à une paire de fesses, et ça s'appelle Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Voilà, donc en réalité, les projections chez moi, elles sont plutôt rabaissantes que... Et il se trouve que cette pièce, je l'ai fait plusieurs fois, mais avec des titres différents en effet. Et une fois, c'était une référence à Sade, très directement à Sade, qui avait fait pour sa femme un coussin en forme de fesses. Et voilà, ça m'est resté. Il se trouve que c'est sous une phrase que j'ai écrite aussi, qui est dans l'exposition, « Un charcutier qui lit Sade est un homme de goût ».
Alors je voudrais qu'on écoute, avant de poursuivre notre émission sur cette extraordinaire boule suspendue de Giacometti, je voudrais qu'on rende un petit hommage, évidemment, à Sang Sordrella de Lou Reed, qu'il a fait avec John Cale en 88, c'était le moment où ils se sont retrouvés. C'est un hommage à la disparition de Warhol. Et on a pu les voir l'année suivante, si vous vous en souvenez peut-être, Arnaud Lebel-Rejoux, à la Fondation Cartier en 89, quand l'ensemble du groupe Velvet Underground s'est retrouvé. Écoutons-les.
Please, come over to 81st Street, I'm in the apartment, above the bar. You know you can't miss it, it's across from the subway and the tacky store with the Mylar scarves. My skin's as pale as the outdoors moon. My hair's silver like a Tiffany watch. I like lots of people around me, but don't kiss hello, and please don't touch. It's a Czechoslovakian custom my mother passed on to me. Friends Andy has invited him up for tea. Open house.
Quand j'ai connu, par ce que je faisais, je sais, j'ai connu Masson à une exposition. Le jour même, j'ai connu une bonne partie de mes amis qui sont encore aujourd'hui. C'est-à-dire Masson, Bataille, Léris, Desnos et Queneau et beaucoup d'autres. C'est pas? Et du coup, c'est comme si j'avais toujours été là. C'est pas? Au fond, même la vie avec les gens d'ici, ça a commencé autour de 28-30, c'est pas?
C'était l'épopée surréaliste, ça?
C'était déjà la fin. Moi, j'avais envie de le connaître, d'ailleurs. C'est les gens qui m'intéressaient le plus à l'époque, nettement. Et puis, j'avais fait des sculptures mobiles, des constructions en bois, enfin. Vous avez exposé, d'ailleurs, déjà avec Max Ernst et Harp, à la galerie chez Pierre. Et ces Bretons et Dali qui les ont vus et qui considéraient que c'était bel et bien de la sculpture surréaliste, non ?
La belle voix de Giacometti en 63, qui raconte donc ses souvenirs, Véronique Wissinger, donc cette œuvre dont nous parlons aujourd'hui, cette fameuse boule suspendue, inaugure le cycle des objets surréalistes, en tout cas est reconnue comme telle par Dali. Pourquoi, selon vous, est-elle apparue comme une telle bombe ?
Je pense que le caractère sexuel y était pour beaucoup, parce qu'il a fait d'autres objets aussi.
Il n'y a pas un caractère idéologique aussi?
C'est-à-dire le fait qu'il ait décidé de déléguer le fer à un menuisier et un ferronnier, il est évident que ça avait c'était une prise de position qui avait un aspect politique. C'est-à-dire que de sortir du beau métier, du beau fer, et d'aller sur le terrain d'une œuvre d'art qui serait avec un statut qui serait plus proche de celui des objets dits primitifs, c'est-à-dire ceux qui ont une fonction sociale, comme disait Giacometti, et qui ont au même temps qui sont chargés d'un certain pouvoir. Pour moi, c'est totalement lié à ça. C'est-à-dire la grande découverte qu'il fait en 1926 de l'art primitif. Puis ensuite, donc, il entre en contact en fait en 1929 avec Masson et tout l'ensemble du groupe. Et il oublie Cocteau et Creval, qui étaient aussi très, très importants.
Et Queneau,
il en parle. Hein, là, on est, en fait, il parle à Jean-Marie Drou et on est évidemment bien après, on est en 1962. Mais donc, quand il entre en contact avec tout ce groupe, ça lui permet de cristalliser un certain nombre d'idées et d'aller beaucoup plus vite. Et on voit cette espèce d'accélération qui se passe à ce moment-là. Et il va réellement être celui qui va exprimer les idées qui sont aussi dans l'air du temps. Il faut aussi être clair.
C'est une révolution, l'apparition de ces objets ces objets surréalistes alors, pour vous ?
Pour en revenir au rôle qui est celui de cette boule suspendue et de l'impact considérable de cet objet sur les surréalistes, je crois que ça tient d'abord à sa nature, à son statut qui est d'être un objet précisément et de ne pas être une sculpture, de ne pas être une œuvre d'art au sens traditionnel du terme. Cependant, je pense que c'est un peu un succès, une victoire à la Pyrrhus. Pour une bonne raison, c'est que, et Dali le dit d'ailleurs, on l'a entendu tout à l'heure dans sa citation, l'objet à fonctionnement symbolique, pour être purement surréaliste, doit être extraplastique. Alors, je ne suis pas certain
c'est
que
c'est un mot
boule...
très compliqué à interpréter, voilà. Extraplastique. Quand j'ai lu ce terme, je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut dire exactement ? Ça veut dire qu'il est plus fort du point de vue mental que du point de vue physique ? Qu'est-ce que c'est ?
Non, moi je pense que ça renvoie à ce qui est un des fondamentaux de l'objet surréaliste, et c'est le grand rival de la boule suspendue au fond, c'est le ready-made de Marcel Duchamp. Extraplastique, je pense que ça relève d'une catégorie d'objets qui relève de l'objet trouvé. Et on va voir les objets à fonctionnement symbolique que vont fabriquer à la fois Dali, Breton, Valentine Hugo ou Gala Éluard. Ce sont des objets qui répondent à un autre type d'équation formelle. C'est ready-made plus collage.
Oui.
C'est pas la boule, c'est pas le cas de la boule.
La destruction de la notion d'auteur à ce moment-là, en tout cas de la notion d'artiste exécutant, c'est quelque chose de très important qu'ils avaient commencé au fond par les cadavres exquis également, qui font partie, je crois, de cette démarche. C'est quelque chose que vous trouvez, Arnaud Labelle-Rejoux, jouable encore aujourd'hui ou pas ?
Oui, je pense, mais je voudrais reprendre un tout petit peu ce qui a été dit, parce qu'en effet, moi je suis d'accord avec Didier Oettinger là, sur le fait que extraplastique, c'est au contraire une pièce hyperplastique, si j'ose dire. Mmh. Hyperplastique, et c'est parce que elle invente un nouvel objet. On sort de la référence à l'objet préexistant, comme chez Duchamp, le ready-made est un objet préexistant, pour inventer un objet à fonctionnement symbolique, donc à fonctionnement qui viendrait après. Mais donc, le fait de fabriquer, en effet, la pièce, faire fabriquer la pièce plutôt par un artisan et lui donner une existence postérieure à ce que l'on voit, parce que le fonctionnement symbolique, ça veut dire que c'est le regardeur, en effet, qui fait la pièce. Donc, qui va lire cette pièce ou le fonctionnement de cette pièce en fonction de son énigme, en réalité. Et cette énigme, elle passe par la forme, essentiellement par la forme, et pas par une fonction préexistante. Et les lectures qu'on peut donner, qui sont un peu trop littérales, mais qui existent, font qu'en réalité, l'objet, en tant que fonctionnement autre que mental, je ne le vois pas vraiment. Mais en tant que fonctionnement mental, il est clair que c'est un objet à fonction symbolique. Alors, sinon, pour ce qui était de dire que la différence avec l'objet, je dirais, type ready-made, la différence, c'est que celui-ci est aussi quelque part clos. C'est-à-dire que je peux m'y projeter d'une certaine manière, y lire quelque chose, mais je ne peux pas sortir véritablement d'une fonction préexistante. Alors qu'avec le ready-made, et beaucoup d'artistes qui ont utilisé le ready-made, ont détourné en réalité la fonction initiale pour apporter une signification qu'eux s'appropriaient. Alors que dans la boule, je pense qu'on est toujours devant une sorte d'énigme, et chacun la lit comme il l'entend. Mais pour moi, c'est une pièce hyper plastique.
Véronique Wissinger.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et le côté énigmatique de l'objet, qui est évidemment renforcé beaucoup par sa facture en bois, pour moi, renvoie encore une fois à l'objet d'une culture dont on aurait perdu les clés, en fait. Et c'est pour ça qu'elle est si bien à sa place dans l'exposition chez Raton en 1936.
Alors là, j'ai une remarque à faire, parce que vous avez tous les deux évoqué la question du ready-made, et qui est fondamentale. Mais quand vous dites qu'on dirait, Véronique, vous dites qu'on dirait une sorte d'objet fait par une civilisation disparue dont on a perdu les clés, ce qui est très bien dit, je crois. Ça nous attire vers un monde qui sera toujours différent du ready-made, qui est celui du merveilleux. C'est-à-dire que le ready-made du Champien, c'est le refus du merveilleux.
Merveilleux, c'est le mot qu'on retrouve le plus dans les écrits de Giacometti. Merveilleux, donc c'est pas un hasard.
Voilà, donc c'est ça la grande tension finalement entre la difficulté qu'a eu probablement le surréalisme à un moment donné avec le ready-made jusqu'à ce qu'il le récupère très largement à partir de 34. C'est probablement ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Didier Oettinger ? C'est le rapport entre rechercher un objet de rencontre merveilleuse, comme une rencontre dans une promenade, et un objet qui est non idéaliste.
Voilà.
Vous êtes oui. bien embarrassé, je vous oui, sens
oui,
bien
oui.
embarrassé.
Non, non, parce que, oui, parce que cette histoire du Réunimède, elle est fondatrice. Hein. En 1938, lorsque Breton va rédiger le catalogue abrégé du surréalisme, il va reconnaître au Réunimède une place fondatrice dans la catégorie d'objets surréalistes. Et c'est vrai qu'il va le réhabiliter autour de 34, vous l'avez dit. Et il va le réhabiliter, le Réunimède, il va dépasser le Réunimède en provoquant le reniement de Giacometti lui-même. C'est ça qui est intéressant. Et c'est là que Breton est quelqu'un à la fois de très littéraire, évidemment, on le s'en doutait, mais qui construit véritablement un récit pour la postérité. Giacometti a été celui qui a été à l'origine de l'invention de l'objet à fonctionnement symbolique, on l'a dit largement, mais en 1934, Breton va lui prendre la main, le conduire au marché aux puces de Saint-Ouen et faire de lui l'inventeur d'un ready-made. Et Giacometti va revenir de cette escapade au marché aux puces avec ce fameux masque militaire de la Première Guerre mondiale, là où Breton va ramener sa clé.
Qui va amener à Giacometti une solution plastique essentielle.
Par ailleurs, mais essentiellement, Giacometti est conduit d'une certaine façon à renier son savoir-faire en tant qu'artisan, en tant qu'artiste et plasticien pour devenir celui qui marque le deuxième temps de l'objet surréaliste, celui qui va trouver son épanouissement dans l'exposition de la Galerie Raton, qui réhabilite cette fois en majesté le ready-made.
Écoutons Giacometti, lisons avec Giacometti la lettre qu'il a envoyée à Pierre Matisse en 1947 dans laquelle il raconte quelques éléments biographiques qui vont nous éclairer.
En 1922, mon père m'envoya à Paris. J'étais à l'Académie de la Grande Chaumière, chez Bourdel. Le matin, je faisais la sculpture. L'après-midi, je dessinais. Je ne pouvais plus supporter une sculpture sans couleur, et très souvent, j'ai essayé de les peindre d'après nature. Mais impossible de saisir l'ensemble d'une figure. Comme je voulais tout de même réaliser un peu ce que je voyais, j'ai commencé, en désespoir de cause, à travailler chez moi de mémoire. J'ai tâché de faire le peu que je pouvais sauver de cette catastrophe. Ceci a donné, après quantité d'essais qui touchaient au cubisme, on devait forcément y toucher, des objets qui étaient pour moi ce que je pouvais faire de plus proche de ma vision de la réalité. Les figures n'étaient jamais pour moi une masse compacte, comme une construction transparente. Après de nouveau toute espèce d'essais, j'ai fait des cages avec une construction libre à l'intérieur, exécutée en bois par un menuisier. Il y avait un troisième élément qui me touchait en réalité, le mouvement. Malgré tous mes efforts, il m'était alors impossible de supporter une sculpture qui donne l'illusion d'un mouvement. Une jambe qui avance, un bras levé, une tête qui regarde de côté. Ce mouvement, je ne pouvais le faire que réel et effectif. Je voulais donner aussi la sensation de le provoquer. Plusieurs objets qui bougent l'un par rapport à l'autre. Main prise au doigt. Pointe menaçant l'œil d'une tête crâne, une boule fendue suspendue dans une cage et qui peut glisser sur un croissant. Lettre d'Alberto Giacometti à Pierre Matisse, 1947.
Voilà, une petite promenade avec Lou Reed pour continuer notre regard, comme ça, à porter notre regard sur la fameuse boule suspendue de Giacometti. Et nous étions en train de parler de l'évolution de l'objet surréaliste, en fait. Et nous étions partis avec Giacometti et Breton aux puces pour voir cet étrange masque militaire qu'ils avaient ramené. Et je voulais vous demander, Arnaud Labelle-Rejoux, les puces, c'est toujours un lieu d'inspiration ?
C'est un lieu de promenade, en tout cas, pour les surréalistes. C'est pas le seul, mais c'est vrai que ce qui est intéressant aux puces, c'est plus que dans les objets qu'on achète dans des boutiques, entre guillemets, normales, c'est le côté choses mortes, hein, évidemment, qui est intéressant. Donc, les choses mortes, on va les revitaliser, on va les détourner, on va les agencer de telle façon que, et sans avoir rien à toucher, d'une certaine manière, font que la pratique des puces, c'est la pratique à la fois du regard, hein, je pense que ça s'inscrit bien dans la position postérité surréaliste.
Mais est-ce que c'est pas aussi la possibilité de la rencontre?
C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire
une sorte de hasard hallucinant. Le miracle.
Le miracle, voilà. Donc ça, c'est un des aspects des puces. Mais je crains qu'on trouve moins de choses qu'autrefois. En tout cas, quand j'entends, y compris certains de mes amis qui me disent avoir trouvé des choses aux puces, j'en doute presque parfois, parce que j'ai vraiment du mal à trouver des choses aux puces. Mais en revanche, non, il y a la question de la chose morte, comme je dis, hein, enfin, je reprends la formule qu'utilisait Mike Kelly, mais c'est-à-dire des choses qui ont une puissance. Une puissance formelle, une puissance évocatrice, une puissance narrative, et qu'on va réutiliser en tant que puissance dans un autre contexte. Voilà. Alors ça m'intéresse par rapport aux objets dans Opus, plus que les objets... voilà. Avec le défaut, évidemment, des puces, et le terme puce le dit tout de suite, ce côté vieillot. Dont il faut se méfier évidemment, parce que tout d'un coup on peut se retrouver plutôt que chez les surréalistes, même chez les nouveaux réalistes, où là on voit qu'il y a une espèce de vieillissement de l'objet qui fait que là, c'est plutôt une espèce de nostalgie qui peut s'emparer du regardeur plutôt qu'une lecture réelle de la puissance de l'objet.
Mais pas chez les nouveaux réalistes qui eux cherchaient plutôt les objets qui leur étaient contemporains, qui témoignaient de la modernité.
Aujourd'hui ils sont devenus, on a l'impression que ça jaunit un peu, d'un spurry, on a l'impression que c'est des objets trouvés au puce.
Véronique Wissinger, cette promenade de Breton et Giacometti au puce, où ils ont ramené cet objet qui va être important parce qu'il a été photographié par Man Ray, parce qu'il va devenir un objet qui va apparaître dans cette fameuse sculpture, l'objet invisible. Qu'est-ce que c'est une... Non, je vous vois hocher la tête.
Non,
vous n'êtes
pas
tout à fait d'accord. Racontez-nous.
Je ne suis pas du tout convaincue. Je pense que le récit de Breton raconte beaucoup plus sur Breton que sur Giacometti lui-même. Hein, et autant Breton accumulait, adorait ce genre de hasard objectif, autant Giacometti, lui, a été absolument éloigné de tout fétichisme et de toute nostalgie, et il n'a jamais collectionné rien du tout. Sauf un masque africain qu'il avait acheté en 1927, et c'est la seule chose qu'il a jamais possédée. Donc je pense qu'il faut revoir cette histoire avec, en comprenant qu'il y a deux récits parallèles qui se déroulent, et que dans le cas de Giacometti, notamment pour l'objet invisible, où maintenant on a pu montrer, grâce aussi à tous les dessins, aux sculptures dont j'ai montré certaines dans l'exposition.
Alors, l'objet invisible, pour nos auditeurs qui ne la connaissent pas forcément, vous pouvez dire un mot sur cette sculpture?
Oui, c'est une sorte de personnage extrêmement filiforme, avec des mains arachnéenne, hein, qui est à demi assis sur un trône, hein, et le visage a une forme extrêmement particulière, avec deux yeux différents dont l'un est en forme de roue et une bouche triangulaire, hein. Donc ça ressemble un peu à une sorte d'extraterrestre, on peut dire, et les mains écartées tiennent le vide, d'où le double titre de l'œuvre, qui est « Main tenant le vide », avec ce jeu de mots, et l'objet invisible, puisque ça peut être aussi considéré comme un objet invisible au centre. Donc l'objet invisible ne vient pas de nulle part. Il y a un énorme travail qui est fait par Giacometti avec des objets. Donc, puisque au départ, la première tête est à l'intérieur d'une sorte de meuble qu'il a construit et qui est comme une sorte d'étagère. Donc on voit bien que ça se situe dans quelque chose de très long dans le processus de Giacometti lui-même. Donc l'histoire que... apporte Breton, raconte beaucoup de choses par rapport à lui-même.
Au surréalisme et à son évolution. Pas,
absolument, absolument. Donc on est dans une situation du surréalisme au moment où il le raconte, bien plus que dans la description de la genèse de l'œuvre qui n'est pas du tout passée comme ça. En fait.
Arnaud Labelle-Rejoux,
oui,
que dit l'artiste?
Je voulais revenir sur une petite chose sur les puces, parce que il se trouve que quand j'ai visité l'exposition, j'avais entendu parler de la pièce auparavant, mais j'ai croisé donc Jean-Jacques Lebel qui...
a été avec Breton aux puces, et raconte
exactement,
souvent cela.
Exactement. Ouais. Ouais. Et il y a une pièce absolument magnifique, merveilleuse de Picasso qui s'appelle La Vénus
du gaz.
Et qui est une pièce absolument merveilleuse et qui est un ready-made. Qui est un ready-made puisque Picasso ne fait rien,
il redresse un brûleur.
Et Jean-Jacques me dit, cette pièce extraordinaire, etc. Mais Miro l'a utilisé également à l'intérieur d'une sculpture. Ce même brûleur.
Et du champ.
Pourquoi et voilà. Et pourquoi? Parce que juste après la guerre, il y avait cet abandon de ce système d'alimentation de gaz. Et donc, il y avait des caisses entières. Et voilà, on pourrait faire une exposition entière, je dirais, sur l'utilisation de choses trouvées aux puces.
Des matériaux d'une époque.
Oui. Voilà, c'est du matériel d'une époque. Sauf que la plus merveilleuse, c'est juste de l'avoir prélevé comme Picasso.
Oui. Enfin, alors, puisque vous parlez de Picasso, Arnaud Labelle-Rojoux, je voudrais poser une question à Didier Ottinger et à Véronique Wissinger, parce que cet objet que nous considérons aujourd'hui, cette boule suspendue, qui est apparue comme un météore, comme ça, dans le paysage surréaliste et qui a amené quelque chose d'autre, il est parfois dit qu'il y a des sources ou des inspirations. On parle par exemple du projet pour monument de Picasso ou bien de la danseuse espagnole de Miro. Qu'en pensez-vous ?
Bien sûr, les formes ne naissent jamais de rien, et surtout dans l'esprit de grands artistes comme Giacometti. Et on sait très bien que il a pu voir, comme tout le monde, j'allais dire, à l'époque, les reportages effectués dans l'atelier de sculpteur de Picasso, à Bois-Geloup, ou alors des reproductions qui figuraient également dans les grandes revues surréalistes, des fameux dessins de Dinard de 1928. Et c'est vrai que c'est troublant de retrouver ce type de registre formel sous la main de Giacometti.
Oui, non, mais en fait, on peut continuer la liste. Hein. Nous-mêmes, on a trouvé d'autres références possibles. Comme je disais tout à l'heure, en fait, on est dans un objet qui cristallise quelque chose, qui cristallise un moment. Et je pense qu'une des raisons, on en parlait hors micro, mais pour laquelle la boule suspendue est aussi devenue si importante avec le temps, c'est que elle est devenue la propriété de Breton. Et que donc Breton, qui la reçoit donc comme cadeau de mariage, il ne faut pas oublier que Giacometti était le témoin de mariage de Breton, va aussi en faire comme une sorte de porte-drapeau à partir de 34.
Et que Breton va la placer au centre de sa grande composition, qui est le fameux mur conservé au Musée National d'Art Moderne. Elle est au centre géométrique du mur. Donc ça veut dire que son énergie rayonne et que Breton lui accorde une signification toute particulière.
Et il la garde jusqu'à la fin, n'est-ce pas ? C'est vraiment le point de focal, comme ça, général. Alors, puisque nous parlons de ce qu'il a vu, peut-être pourrions-nous aussi dire un mot de ce qu'il a lu, parce que j'étais assez frappé quand j'entendais la lettre à Pierre Matisse. Une des choses sur lesquelles il insiste, c'est ses lectures, et que c'est des lectures complexes, c'est les auteurs antiques, etc. Qu'est-ce qu'il lit en 1928, à peu près, ou 1930 ?
Alors, Giacometti est un dévoreur de livres. Il ne faut pas oublier qu'il a grandi dans l'atelier de son père, qui était un artiste avec une bibliothèque extraordinaire et qui n'a cessé de lire. Donc, ce qu'il lit exactement à cette époque-là, c'est un mélange d'énormément de choses. Donc, c'est assez difficile.
Donc, c'est un lecteur. C'est quelqu'un qui vit avec les livres.
Il vit avec les livres. Il a toujours des livres dans la poche. D'ailleurs, ça fait partie de sa mythologie. Mais là, pour le coup, c'est vraiment vrai. Et il dessine dans les marges. Et c'est clair que toute la production intellectuelle des gens autour de la revue Documents, etc., a été absolument capitale.
Et d'ailleurs, donc, au fond, sa première confrérie avec Caillois et les autres, ce sont des écrivains avec Bataille, avec Queneau, avec Léris, ce sont des écrivains.
Il a été tout au long de sa vie vraiment très très proche de beaucoup d'écrivains. Je pense que cette proximité qu'il a maintenue, y compris en reconnaissant des gens de générations différentes après la guerre, elle est tout à fait typique. Il est un artiste philosophe, il est un merveilleux écrivain aussi.
Arnaud Labelle-Rojoux, vous êtes vous aussi un écrivain, un merveilleux écrivain, je dois dire, et vous écrivez des essais, mais aussi des romans, des livres, des biographies, en plus d'être artiste. Comment utilisez-vous cela dans votre travail ? Quelle est votre bibliothèque ? Elle est probablement très bigarrée.
Oui, très bigarrée, très, très bigarrée, en effet. Comment j'utilise l'écriture c'est-à-dire qu'en effet, plutôt que l'écriture, on pourrait dire le langage d'abord. Le langage, c'est-à-dire que... Et j'intègre le langage plastique, les langages plastiques à l'intérieur de l'écriture. Ce qui fait que moi, je ne dis jamais, par exemple, que je suis écrivain. Je dis plutôt que je suis artiste et que parmi mes pratiques d'artiste, il y a l'écriture, il y a le fait même d'écrire, en effet, des choses qui relèvent de la fiction, des choses qui relèvent de la biographie, puisque j'ai écrit effectivement une petite vie du Caravage. Mais le rapport à l'écriture passe par les mots, par le langage, par l'association d'idées. Et c'est là où on retrouve, au fond, quelque part, je crois, une postérité ou une histoire commune avec le surréalisme, même si, plus souvent, à cause de l'insolence dont vous parliez tout à l'heure, ce serait plutôt de Dada dont on me rapprocherait. Mais avec le temps, peut-être que ce serait plutôt ce côté littéraire qui, sans être dominant, prend une une place plus grande qu'autrefois.
Arnaud Labelle-Rejoux, vous le dites vous-même, avec le temps, c'est le moment de remercier mes invités. Véronique Wissinger, merci infiniment. Vous êtes la directrice de la Fondation Giacometti. Je le rappelle, vous nous avez soutenus dans notre regard aujourd'hui. Didier Ottinger, merci infiniment. Vous êtes le directeur adjoint du Centre Georges Pompidou, du Musée National d'Art Moderne. Et vous êtes surtout le commissaire de cette extraordinaire exposition sur le surréalisme et l'objet. Arnaud Labelle-Rejoux, nous vous connaissons tous. Vous êtes un grand artiste. Merci de tout cœur.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était les regardeurs. Aujourd'hui, nous avons parlé de la boule suspendue de Giacometti de 1931. Je vous signale que vous pouvez aller admirer cette œuvre au sein de l'exposition Le surréalisme et l'objet au Centre Pompidou jusqu'au 3 mars 2014. Durant l'émission, vous avez pu entendre des musiques de Lou Reed et des extraits de son album Songs for Drella, composé en hommage à Andy Warhol. Lou Reed qui, hélas, nous a quittés récemment. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. Attaché d'émission, Claire Poinsignon. Lecture de texte, Pauline Ziad. À la technique, Bernard Laniel. Réalisation, Annabelle Brouard. Les Regardeurs, une émission de Jean Deloisy et Sandra Adam.